Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et nous sommes le samedi 27 septembre 2025, jour de grande finale d'AFL ici en Australie. Comme tous les samedis, on commence notre programme avec la rétrospective. La rétrospective du jour, on remonte au 27 septembre 1949, à l'aube de la fondation de la République populaire de Chine. Ce jour, la jeune nation choisit un drapeau pour incarner son identité nouvelle. Il devait être le visage visible d'un peuple en reconstruction et d'un projet politique. François Vantôme nous explique l'importance et la signification de ce drapeau, aujourd'hui incontournable.
Avant même l'officialisation du drapeau, la Chine moderne vivait une période de profonde transformation. Avant 1949, le pays a été dirigé successivement par une monarchie impériale, puis par une république fragilisée par les guerres civiles, puis par le Kuomintang sous Chiang Kai-shek. Tandis que les communistes menaient leur propre chemin dans des zones rurales avant d'emporter le pouvoir à la fin de l'année. En 1949, la République populaire de Chine naissait après des années de guerre civile et d'instabilité politique. Le pays cherchait à affirmer son identité sur la scène internationale, à unir un territoire immense et hétérogène et à légitimer une autorité nouvelle après des années de domination révolutionnaire et de lutte armée. Le 27 septembre 1949, alors que les préparatifs pour la fondation de la République populaire de Chine s'accéléraient, la jeune nation cherchait un emblème capable d'incarner son identité nouvelle. Le drapeau devait devenir le visage visible d'un peuple en pleine reconstruction et d'un projet politique qui allait transformer le paysage du XXe siècle. En bref, elle souhaitait ouvrir une ère où le peuple chinois pourrait se reconnaître indépendamment des divisions régionales ou sociales. Dans ce contexte, la désignation d'un symbole fort et simple, lisible à la fois sur le front et à l'international, revêtait une importance majeure. Le drapeau fut le fruit d'un concours national de design auquel de nombreux créateurs et designers ont participé. Le choix retomba sur une proposition signée par Zheng Liangsong, un dessinateur textile originaire de Shanghai. Le dessin retenu présente un champ rouge et 5 étoiles dorées disposées de façon à raconter une histoire visuelle. Une grande étoile entourée de 4 petites étoiles alignées en arc de cercle à droite de l'étoile principale. Cette configuration associe simplicité formelle et message politique clair. Le champ rouge symbolise la révolution et le courage du peuple. Elle évoque le sang des révolutionnaires et l'esprit de la lutte pour la libération nationale, tandis que les étoiles dorées renvoient à la lumière et à l'espoir. L'étoile principale représente le Parti communiste chinois. Et les 4 étoiles plus petites évoquent les 4 classes sociales qui constituent le socle de la révolution sous la direction du Parti communiste chinois. Elles représentent les travailleurs, les paysans, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale. La disposition des étoiles forme un arceau autour de la grande étoile signifiant l'unité des 4 classes autour du leadership du parti. L'ensemble transmet l'idée d'unité, de direction et de solidarité autour d'un programme commun. Bien que l'adoption officielle du drapeau ait lieu le 27 septembre 1949, le premier drapeau est hissé par Mao Zedong sur une estrade dominant la place Tiananmen de Pékin. le 1er octobre, lors d'une cérémonie proclamant la fondation de la République populaire de Chine. Dès lors, ce drapeau est devenu le symbole emblématique de la nation et a accompagné les premiers pas d'un État en quête de reconnaissance et de stabilité sur la scène mondiale. Aujourd'hui encore, il demeure un signe puissant de l'histoire moderne chinoise et de son identité politique.
C'était Léonie Pernet sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson « Le pas de l'au-delà ». L'Australie s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035, mais la fourchette de réduction fixée de 62 à 70% par rapport au niveau de 2005 ne satisfait personne. Les défenseurs du climat affirment que l'objectif est dangereusement insuffisant, tandis que la coalition estime que ce plan est fantaisiste. Le gouvernement a tenté de répondre aux demandes des groupes industriels et commerciaux, ainsi qu'aux demandes des écologistes.
Les défenseurs du climat affirment que l'objectif de réduction des émissions fixé par le gouvernement fédéral pour 2035 est dangereusement insuffisant, tandis que la coalition estime que son plan relève du domaine de la fantaisie. Les ministres du gouvernement s'efforcent actuellement de justifier cet objectif auprès du public et de la communauté, alors que la coalition est sous pression pour présenter sa politique climatique. C'est le conteur grec antique Ésope qui disait que lorsqu'on essaie de satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne. C'est la leçon que semble avoir tirée cette semaine le gouvernement travailliste d'Albanese après avoir annoncé son objectif de réduction des émissions pour 2035. Fixant une fourchette de réduction de 62 à 70% d'ici 2035 par rapport au niveau de 2005, le ministre du changement climatique Chris Bowen affirme que cet objectif est à la fois ambitieux et réalisable.
As you'd expect with such an announcement, there's plenty of people who think it's too high, plenty of people who think it's too low, but it's an achievable, ambitious plan, one that's in the economic best interest of the country, as is clear from the Treasury modelling and the CSIRO modelling, and it's the right plan for Australia.
En fixant le plafond à 70%, le gouvernement a rapproché son objectif le plus ambitieux de celui de 80%, réclamé par des groupes tels que l'Australian Conservation Foundation, mais en fixant le seuil minimum à 62%, le gouvernement a tenté de répondre aux demandes des groupes industriels et commerciaux qui ont averti que des réductions comprises entre 65 et 75% pourraient s'avérer extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Tiraillé entre ces deux positions, le gouvernement a tenté de trouver un compromis, ce qui a suscité l'inquiétude tant des écologistes que des industriels. Pour défendre cette fourchette, le gouvernement affirme que des pays comme le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Norvège ont tous fixé une fourchette pour leur objectif 2035. Chris Bowen affirme que, par rapport à d'autres économies, l'objectif de l'Australie est l'un des plus ambitieux.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Au départ, l'autorité sur le changement climatique avait proposé un objectif de 65 à 75%. Si les objectifs supérieurs à 70% ont suscité une levée de boucliers dans certains secteurs industriels, Amanda McKenzie, PDG du Climate Council, affirme que des modélisations approfondies justifient de relever encore davantage cet objectif.
There are many independent experts that put forward that 75+ target is very doable, from Deloitte to EY to a group of 500 businesses that came out in the last month. So certainly the 70% target is doable and we need to get on with it.
La dirigeante des Verts, Larissa Waters, estime que l'objectif fixé pour 2035 manque clairement d'ambition réelle.
Look, a range of 62 to 70 means 62. The only reason they put a range in place is so that they can hit the lowest end of the range and then claim to be heroes. Well, this target is so appallingly low, it will not keep us safe.
De ce côté, la chef de l'opposition, Suzanne Lee, estime que cet objectif manque de crédibilité et ne fournit pas suffisamment de détails sur les coûts. Selon les estimations de l'Australian Energy Market Commission, si le développement des énergies renouvelables et des infrastructures se déroule comme prévu, le déploiement coordonné des énergies renouvelables permettra de réduire les prix de l'électricité résidentielle de 13% en 10 ans. Elle montre également que les coûts énergétiques moyens des ménages pourraient baisser d'environ 1000 dollars par an au cours de la prochaine décennie. La modélisation montre que les ménages qui s'électrifient entièrement pourraient réduire leurs factures jusqu'à 70%. Madame Lee, elle, conteste cette analyse. Elle estime que la modélisation climatique indépendante est un vrai canular cruel.
Australians right now are very disappointed. They're disappointed that the government talks a big game about manufacturing and made in Australia, but actually doesn't deliver. And all my colleagues today, including you, John Seely, have reflected that we do recognise Australia's role in reducing global emissions. We do understand that common sense policies should be implemented and they should be done in a way that makes sense for our economy, because we can't do everything from Australia, but we do have a role in participating in that global challenge. But what the Prime Minister has announced with respect to these 2035 targets certainly goes nowhere near that.
La chef de l'opposition, Suzanne Lee, est sous pression pour définir la politique du parti en matière de changement climatique, plusieurs membres du parti faisant pression pour que celui-ci abandonne complètement l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Le porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, Jonathan Dunham, avertit en début de semaine que la coalition serait confrontée à un exode massif de ses membres de premier plan si elle adoptait une politique de zéro émission nette sans réserve. Madame Lee a été contrainte de clarifier ses propos tenus lors d'une conférence de presse vendredi où elle avait déclaré ne pas croire en la fixation d'un objectif de réduction des émissions, que ce soit par l'opposition ou par le gouvernement. Elle a ensuite déclaré s'être mal exprimée.
We don't support targets in opposition. We do, of course, recognise the importance of targets in government when we have the full information in front of us, which we don't have now.
Le Premier ministre Anthony Albanese, lui, affirme que tandis que l'opposition se dispute pour savoir si elle va ou non poursuivre l'objectif de zéro émission nette, son gouvernement, lui, s'y attelle déjà.
The Liberal Party are too busy fighting each other, too busy looking over their shoulders, too busy arguing with each other to argue for the interests of Australians. And today's bizarre statements by the leader of the Liberal Party, where she walked away from setting any targets as are required by the Paris Agreement, says it all about how their focus is simply on their internals.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens, désolé si je te dérange.
C'était Slimane et la chanson « Mon amour » qui lui a permis de représenter la France à l'Eurovision l'année dernière en 2024. Les scientifiques du Heart Research Institute de Nouvelle-Galles du Sud utilisent des mini-cœurs cultivés en laboratoire, de minuscules sphéroïdes cardiaques battant de la taille d'un grain de sable seulement, pour tester un nouveau médicament qui pourrait protéger les personnes atteintes d'un cancer du sein des complications cardiaques liées à la chimiothérapie. Jean-Noël Ducasse a rencontré le docteur Clara Liu Chungming, l'une des chargées de recherche.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Dr Clara Liu Chungming. Bonjour à vous.
Bonjour.
Docteur, vous travaillez sur un projet très intéressant. C'est des mini-cœurs fabriqués en laboratoire, et vous êtes chargé de recherche à l'Institut de recherche cardiaque, the Heart Research Institute de New South Wales. Est-ce que peut-être vous pouvez d'abord nous parler de ce que votre équipe est en train de faire avec ces mini-cœurs cultivés en laboratoire?
Ben, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet de cardio-oncologie. Et cardio-oncologie, c'est quand il y a des dommages du cœur, parce que avec le traitement de anti-cancer. Donc, on comprend pas trop le mécanisme et pourquoi certains patients peuvent avoir les problèmes cardiovasculaires. Mais on sait que 30% de ces patients qui sont traités avec la chimiothérapie peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires qui deviennent chroniques et on ne sait pas comment protéger pour l'instant. Donc, ce qu'on fait avec les mini-cures, c'est d'abord, c'est petit comme un grain de sable, mais il bat et réplique le cœur humain. Et avec ça, on est en train de tester des médicaments pour essayer de protéger le cœur contre les chimiothérapies. Et notre prochaine étape est d'utiliser le sang des patients qui ont du cancer du sein et de faire leur propre personnalisé mini-cure. Et ça va nous aider d'essayer de comprendre le mécanisme causé par la cardiotoxicité du chimiothérapie, mais aussi d'essayer de détecter les signes plus tôt et de trouver des médicaments personnalisés pour protéger le cœur de ces individuels. Donc, en utilisant les mini-cœurs, ça aide à réduire les tests sur les animaux, mais aussi à essayer de personnaliser des médicaments pour les individuels, parce qu'à la fin du jour, tout le monde est différent, et spécialement pour le cancer, il y a vraiment de différentes techniques et traitements pour traiter les individuels. Donc, c'est pour ça que je vois que c'est important qu'il faut qu'on les traite différemment.
Et parlez de votre équipe, parce que votre équipe de recherche est entièrement féminine.
Oui, c'est féminine, mais on a eu un homme maintenant dans l'équipe, oui, mais aussi on collabore avec d'autres institutions. Donc j'ai fait mon doctorat à l'Université de Technologie Sydney avec Comini Gentile. Donc malgré que mon lab avec qui je travaille pour l'instant est juste femme, mais je collabore beaucoup avec les hommes aussi, comme Corminé, mon ex-supervisor, mais aussi avec les hôpitaux, comme Chris Lifehouse O'Brien.
Oui.
Ouais. Et à l'Université de Sydney, on travaille avec un chimiste qui nous aide à faire développer un candidat médicament pour essayer de protéger le cœur contre ces chimiothérapies.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la technologie cardiaque 3D innovante? Comment est-ce qu'elle protège les femmes?
Le 3D mini-cœur, c'est juste un modèle où ça nous aide à tester les médicaments pour essayer de protéger le cœur. Mais avec ce modèle, on prend le sang des femmes qui ont du cancer et on fait leurs cellules de cœur. Et avec ça, on réplique leur propre mini-cœur.
Et d'après les statistiques, le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquemment diagnostiqué en Australie. Et pour vous, quels sont un petit peu les conseils que vous donneriez pour que les femmes se font tester régulièrement, par exemple?
Tout d'abord, la cardiotoxicité, c'est très nouveau et pour l'instant, c'est important parce qu'on connaît, on comprend pas trop les mécanismes de la cardiotoxicité et les oncologues sont démunis. Vous savez, ils n'ont pas de traitement efficace pour protéger le cœur de ces patients. Alors, je vois que c'est très important que les patients aussi soient au courant des risques de la cardiotoxicité parce qu'à la fin du jour, c'est eux qui connaissent mieux leur corps.
Oui.
Et s'ils voient quelque chose ne va pas bien, ils se sentent plus fatigués ou leur cœur font mal, ben, c'est mieux pour eux de directement d'aller voir leur médecin pour essayer d'avoir un conseil avec eux.
Au début, vous aviez dit que jusqu'à 30% des patientes atteintes d'un cancer du sein a un risque d'insuffisance cardiaque, parfois même des années après le traitement. Mais comment est-ce que ces femmes peuvent éviter le risque de maladies cardiovasculaires?
Malheureusement, on ne sait pas trop, mais on a vu que les exercices aident beaucoup ces patients.
Mmh.
Donc, peut-être faire l'exercice 30 à 1 heure de temps par jour, ça va définitivement les aider. Mais franchement, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de médicaments vraiment pour protéger le cœur en ce moment. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire.
Et Clara, quelle est la prochaine étape dans vos recherches avec votre équipe?
Ben, notre prochaine étape, ça va être d'utiliser le sang des patients qui ont aussi d'autres cancers.
Ouais.
Malgré qu'on veut essayer de traiter les femmes avec du cancer du sein, on veut essayer de traiter tous les cancers et aussi d'essayer de tester notre traitement contre d'autres traitements anti-cancers. Et ça va nous aider à protéger le cœur de tout le monde, de ces patients qui ont cancer, parce qu'à la fin du jour, ils sont fatigués, ils sont stressés avec le cancer et avec la chimiothérapie. Et on ne veut pas trop les donner une deuxième maladie qu'on ne peut pas encore traiter, surtout.
On va profiter de votre présence pour parler un petit peu de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a emmené à être chercheuse? Est-ce que c'est une passion pour la médecine?
Tout d'abord, j'étais tout le temps fascinée par la science quand j'étais à l'île Maurice, mais aussi je suis passionnée surtout pour la recherche du cœur parce que d'abord, c'est la maladie cardiovasculaire est la cause majeure de mortalité autour du monde, mais aussi à l'île Maurice. Donc, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés à cause de problèmes de cœur parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement à l'île Maurice. Donc, donc c'est très important pour moi d'essayer d'avoir des traitements abordables et efficaces qui peuvent sauver la vie des patients au long terme, mais aussi de leur donner une meilleure qualité de vie.
Et donc, vous dites que vous êtes dans le domaine de la recherche depuis quelques années en Australie. Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe à Maurice dans le domaine des recherches?
Ben, à l'île Maurice, il n'y a pas vraiment de recherche là-bas. C'est tout petit et la population est à 1,2, 1,3 million. Donc, c'est un peu dur de faire des recherches là-bas. C'est pour ça que j'ai bougé ici.
Et donc, vous êtes venue ici avec votre famille en Australie?
Oh non, je suis venue ici pour moi-même pour poursuivre mes études d'université.
Et donc, est-ce que vous avez peut-être une idée de rentrer à Maurice un jour pour pratiquer la médecine ou pas pour le moment?
Pas pour le moment.
Parlez de vos projets d'avenir en Australie. Vous allez continuer à travailler avec l'Institut de recherche, The Heart Research Institute?
Oui, définitivement.
Merci à vous d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. On vous souhaite les meilleurs vœux et bonne continuation.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Cerveau droit, cerveau gauche, émotion, attention, masque neutre. Je me demande si les fous sont tous des génies. Pourtant, je sais que les génies sont pas tous des fous.
La chanson « Tout pour plaire » interprétée par la chanteuse Gilda. Nous allons passer à la première partie d'un de nos épisodes de l'Histoire cachée de l'Australie avec Grégory Place et Romain Fati. Et nous allons parler d'un animal étrange, l'ornithorynque, que vous connaissez sûrement ici en Australie sous le nom de platypus. Eh bien, on va voir comment l'ornithorynque a permis à l'Australie de renforcer ses alliances diplomatiques.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie, en tout cas de la forme que parfois la diplomatie peut prendre. On appelle ça le soft power. C'est par exemple ce que font les États-Unis à travers Hollywood et les films qu'ils diffusent à travers le monde entier. Il y a aussi une autre forme de soft power qui consiste à mettre en avant les animaux typiques de certains pays. La Chine pratique ainsi encore très régulièrement ce qu'on appelle la diplomatie du panda. Et vous vous en doutez, l'Australie, avec une faune aussi incroyable et surtout aussi unique que celle qu'on trouve en Australie, si également adonnée par le passé, c'est ce qu'on a appelé la diplomatie de l'ornithorynque. Alors, comme d'habitude, pour en parler avec nous, nous retrouvons l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonjour chers auditeurs.
Alors, pour parler de cette histoire, on va revenir à la première moitié du XXe siècle, au tournant des années 40. Avant qu'on rentre dans les détails de comment l'Australie a pratiqué cette forme de diplomatie animalière, je voulais vous demander de façon un petit peu générale, depuis quand ça existe le fait de donner des animaux typiques de tel ou tel pays à d'autres nations, et est-ce que c'est efficace comme forme de diplomatie?
Alors, ça existe depuis très très longtemps. Alors, les historiens n'aiment vraiment pas la phrase de tout temps, mais on sera depuis qu'on peut documenter l'existence de royaumes ou de sociétés installées, cette diplomatie animalière a eu lieu. Parmi les exemples documentés assez lointains, on a celui d'une girafe à peu près 1500 ans avant notre ère, hein, quand même, d'un don d'une pharaone pour un roi de Syrie, de mémoire. Plus proche de nous, Charlemagne. Qui avait reçu un éléphant d'Inde envoyé par les Abyssides, donc ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, des califats. Vous imaginez un éléphant avec sa chapelle dans la capitale impériale. Et en réponse, hein, bien sûr, Charlemagne avait envoyé de très beaux chiens de chasse pour faire honneur au sultan. Donc, par là, je veux dire que la diplomatie animalière, c'est-à-dire envoyer des animaux représentatif de chez vous pour une offrande, comme disons pour signaler la bienveillance que vous avez vis-à-vis d'un autre roi, reine, empereur, chef d'État, ça existe depuis très longtemps. Et ça se fait encore. Hein. Certains d'entre vous se souviendront de l'affaire de la Kalteke, qui est un cheval assez rare, qui avait été envoyé par le Turkménistan au président François Mitterrand, je crois que ça doit être 93 ou 94. Donc ça se pratique parce que c'est montrer à la fois faire plaisir à l'autre, mais aussi bénéficier d'une certaine empathie ou d'une certaine bienveillance culturelle de la part à la fois du souverain ou du chef d'État, mais surtout de la population, parce que il s'agit là d'animaux exotiques. Donc depuis très très longtemps, vous avez des caravanes qui échangeaient des animaux d'un continent à un autre, ça c'est très connu. L'échange d'animaux exotiques aujourd'hui est très, comment dirais-je, réglementé. Mais offrir, faire de la diplomatie animalière, ça se fait depuis des milliers et des milliers d'années.
Ok. Alors, donc, dans cette très longue histoire, l'Australie a également eu un rôle à jouer. On rappelle évidemment que lorsque la colonisation commence en Australie très tôt, eh bien, on ramène justement ces animaux étranges qu'on n'a jamais vus avant. Les kangourous, les koalas, les cygnes noirs, s'il y en a en Europe, c'est justement parce qu'ils ont été ramenés à cette époque. Mais vraiment, l'animal le plus étrange de tous, typiquement australien, c'est l'ornithorynque. D'ailleurs, on a mis très longtemps à savoir dans quelle case le classer. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un mammifère? Ça a posé beaucoup de questions. Et donc, les premiers explorateurs, il y en a beaucoup qui ont voulu les ramener pour les montrer en Europe. Sauf que sur les nombreux ornithorynques qui ont été emmenés, en fait, il y en a très, très peu qui sont arrivés vivants.
Oui. Alors, je vais redécoudre un peu ce que vous nous avez très bien raconté. J'ai un exemple d'un cacatoès qui est dessiné dans un tableau des Pays-Bas au XVIe siècle, ce qui paraît absolument improbable, puisque la colonisation britannique commence en 1770 et officiellement en 1788 avec la première flotte. Mais en fait, vous aviez des tribus indonésiennes qui commerçaient aussi avec les aborigènes dans le nord. Et les animaux déjà voyageaient bien avant la période coloniale. Pour la période coloniale, effectivement, quand les explorateurs arrivent, hein, au début, vous avez beaucoup de missions scientifiques. On est dans la dernière phase de colonisation, après, comment dirais-je, les Amériques du Sud, après l'Afrique et des colonisations absolument brutales et dévastatrices pour les populations locales, les puissances européennes se jette dans la course à qui va grappiller les confettis du Pacifique. Et en l'occurrence, il y en a une grosse, c'est Terra Australis. Et ça se fait sous couvert d'expéditions scientifiques. Alors, observer le passage de Vénus, etc. Et vous avez tout un tas de naturalistes qui rejoignent à bord les capitaines qui sont en charge d'aller découvrir et prendre possession de ce qui pourrait être de futures nouvelles colonies. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les dessins des premiers naturalistes, l'Australie ayant été coupée du reste du monde depuis des millions, des centaines de millions d'années en réalité, elle a développé une faune et une flore que l'on sait qui est totalement différente du reste du monde. C'est bien qu'en fait, on est à un moment de grande, vous savez, la découverte naturaliste, mais aussi le classement, hein, classé dans des herbiers, classé dans des catalogues, etc. Et alors, ils ont beaucoup de mal à savoir qui appartient où. Vous avez les premiers dessins de kangourous, en fait, ils savent pas trop comment faire, ça ressemble à une tête de rat. Enfin, ils essayent de calquer les animaux européens qu'ils connaissent comme ayant eu des déformations qui se seraient devenues. Voilà. Donc, l'ornithorynque fait partie des animaux les plus mythiques dans le genre d'animaux bizarres australiens, parce qu'en fait, c'est un bec de canard, mais ça a un espèce de petit corps de loutre avec une queue de castor. Et puis, c'est un mammifère. Mais il pond des œufs. Alors, où est-ce que vous le classez? Et c'est un animal tout à fait intrigant, qui est non seulement assez mignon, mais il n'est comme aucun autre animal à la surface de la Terre. Et donc, très rapidement, on est intéressé pour le montrer. Parce que les animaux, non seulement en termes de diplomatie animalière, mais en termes de connaissances scientifiques, une nation est valorisée par ses connaissances scientifiques au XVIIIe, XIXe siècle. Il est donc très important de pouvoir saisir ces spécimens et de les montrer. C'est aussi un signe de pouvoir et de richesse. Donc, ramener des animaux exotiques, que ce soit pour la reine Victoria ou que ce soit pour l'impératrice Joséphine, hein, dans le cas de la France, où il y a tout un petit zoo qui est créé pour son Altesse impériale. C'est un signe de pouvoir, mais aussi un signe de puissance scientifique. Les ornithorynques, comme vous l'avez rappelé, sont capturés assez tôt, comme tout un tas d'autres animaux, que ce soit des koalas, que ce soit des kangourous, pour être ramenés. Cependant, la problématique avec l'ornithorynque, c'est que, un, il se reproduit très, 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 très mal, c'est quasiment impossible, en fait, en captivité, et que par ailleurs, Il a des besoins non seulement en termes de nourriture, mais en termes d'écosystèmes qui sont difficilement reproductibles. Un koala de région froide, ou alors encore mieux, un kangourou de région froide en Australie, peut finalement assez facilement s'adapter à l'Europe. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Le kangourou, oui, le koala beaucoup moins, parce que si vous n'avez pas d'eucalyptus, vous ne pouvez pas le nourrir. Enfin, les eucalyptus, vous pouvez les faire pousser en Europe et ailleurs dans le monde.
Mais comme vous le disiez, effectivement, l'ornithorynque, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet SBS French ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.